Bonjour à tous. Donc, comme je le disais, je viens de l'université de Modena et Reggio Emilia, en particulier de l'équivalent de l'UFR de mathématiques. Et là, on a un laboratoire qu'on appelle le laboratoire de machines mathématiques, qui est un laboratoire de recherche en didactique de mathématiques. Et vous allez découvrir qu'est-ce que sont les machines mathématiques dans la suite de ma conférence. Le plan de cette conférence, d'abord une petite introduction. Ensuite, je donnerai la voix à l'histoire pour continuer avec l'idée de laboratoire de mathématiques. Et je vais terminer avec une présentation d'activités dans l'école et hors de l'école avec des instruments que vous allez rencontrer dans ma conférence. D'abord, dans le titre de cette conférence, il y a trois mots, donc technologie, histoire, apprentissage de mathématiques. Et ce que je vais faire, c'est de voir comment ils sont liés entre eux, ces trois expressions. En particulier, le mot technologie apparaît seul, et alors je vais lui attribuer deux adjectifs. D'abord, on parle de nouvelles technologies, mais aussi on peut parler d'anciennes technologies, c'est-à-dire dans l'enseignement des mathématiques, en ce moment, on parle souvent de nouvelles technologies, de TIS, mais il y a aussi des technologies qui sont d'une certaine manière anciennes, on peut l'appeler comme ça. Et ce qui est intéressant de voir s'il y a et quels sont les liens entre les nouvelles et les anciennes. Quand on parle de technologies anciennes, on peut se poser beaucoup de questions, même avec les nouvelles. Mais là, bon, je voulais les remarquer par rapport aux anciennes technologies. Pourquoi des technologies anciennes dans l'enseignement ou dans l'apprentissage de mathématiques? Et puis, quel type de technologie est-ce qu'on va prendre? Quel intérêt de le prendre donc pour la didactique et quel concept mathématique je peux aborder, je peux travailler avec cette technologie, avec quel parcours, donc quel concept, mais comment je veux faire aussi, et aussi à quel niveau scolaire. Alors, ces questions peuvent être banales, mais on se les pose quand même quand on parle, on trouve souvent en ce moment les expressions de nouvelles technologies. Donc c'est un regard aux autres. En particulier, la question du niveau scolaire est une question intéressante parce que si on regarde les textes historiques des commissions sur l'enseignement des mathématiques, souvent, quand on parle de... quand je parle de technologie ancienne, je pense à des objets physiques manipulables. Et quand on pense à ce type d'objet, on pense souvent à l'école primaire ou au début du collège, et pas, par exemple, au lycée. Et ça, on le retrouve aussi dans des documents historiques. Donc, c'est quand même une question à se poser. À quel niveau scolaire je peux utiliser des objets manipulables? Si je peux le faire aussi au lycée, ou si j'ai déjà changé les objets sur lesquels je vais travailler. Quand on parle de technologies anciennes, donc je disais d'instruments manipulables, forcément, on fait référence à l'histoire des mathématiques. Parce que c'est dans l'histoire des mathématiques qu'on va trouver cette attention et utilisation d'instruments. Alors, si on parle d'histoire, on peut aller jusqu'à Euclide. Vous savez bien qu'on parle de la règle du compas. Et les éléments d'Euclide admettent seulement ces deux instruments pour les constructions géométriques. Bien sûr, on les a aussi au niveau théorique parce que ce sont les seuls instruments admis en géométrie. Et donc, quand on pose un problème, ce problème, on peut le résoudre seulement en utilisant la règle de compas. Autrement, la solution n'est pas admissible. Et là, on a par exemple des problèmes comme la duplication du cube, qui n'a pas une solution avec la règle compas, donc un problème qui n'a pas solution dans les mathématiques grecques. Mais cela n'a pas empêché de construire des artefacts pour résoudre quand même ces problèmes. Et là, par exemple, on a ce qu'est appelé le mésolabon d'Eratosthène. Alors, le terme mésolabon a été donné par Pappus à l'instrument construit par Eratosthène qui va résoudre le problème de la duplication du cube. Donc, ce n'est pas admis dans la géométrie grecque. Mais vous voyez quand même que c'est un instrument pour résoudre un problème. Et en même temps, il y a d'autres instruments qui, par exemple, on utilise des courbes pour résoudre ces problèmes. Donc, c'est une solution, on peut dire, mécanique qui utilise des relations géométriques, mais pas la règle et le compas. Donc, vous voyez qu'on a des instruments qui sont admis dans la géométrie, mais aussi, si on veut résoudre des problèmes de mathématiques, on va construire des outils pour le faire. Si on avance un petit peu dans le temps, et on va aux périodes de la Renaissance, on a un exemple très intéressant du lien entre l'usage de certains instruments et le développement des mathématiques. Par exemple, la perspective née, on peut dire, dans l'ouvrage, par le travail de peintres et de mathématiciens aussi. Mais au début, il y a un lien très étroit entre le développement mathématique et l'utilisation de la construction de perspectographes pour dessiner une perspective. Les perspectographes sont liés au travail, par exemple, des artistes, et même s'ils ont dans leur construction les éléments mathématiques que les mathématiques vont prendre au niveau de la géométrie projective, on peut les utiliser sans savoir ces mathématiques-là. Et c'est pour ça qu'au début, ils ont beaucoup eu de succès et la réflexion mathématique s'appuyait sur ces perspectographes. Et puis, bon, dans la suite, la réflexion mathématique s'est détachée de ce type d'instrument et à un certain moment, ils ont été remplacés par d'autres qui automatisaient certaines procédures. Par exemple, dans le traité de Dürer, dans sa géométrie, il décrit quatre perspectographes. Le plus simple, c'est ce qu'elle appelait la vitre de Dürer. Donc, vous avez là l'artiste, on a là un trou où on met l'œil, donc l'œil a une position fixe. Et puis, l'artiste dessine sur cette vitre ce qu'il voit. Donc, ça, c'est le plan du tableau. Et puis, il rapporte ce qu'il a dessiné sur une feuille. Un autre instrument décrit par Dürer est le portillon, qui est probablement une invention de Dürer même. Et là, par rapport au précédent, on voit que la position on n'a pas le trou pour l'œil, mais on a un clou. Donc le point de vue est fixe et ne dépend pas de la vue de l'homme. Parce que quand on essaie d'utiliser ce perspectographe, l'œil, c'est pas fixe. La position est fixe, mais elle bouge. Tandis que là, vous avez un clou qui est le point de vue. Et puis, on a une première modélisation, c'est-à-dire les rayons visuels sont des lignes droites et ils sont matérialisés par un fil qui est lié au point de vue. Et puis, on a un plan du tableau virtuel et un plan réel, c'est-à-dire la feuille de papier est mise là, c'est le plan du tableau, et puis on a un plan virtuel qui est donné par deux fils qui bougent. Et donc le point à dessiner, l'intersection entre le fil qui est le rayon visuel et les deux autres fils qu'on va bouger sur le plan tableau. Donc on a les mêmes types d'éléments, mais on a une modélisation majeure dans le portillon de Dürer. Et ce portillon m'a été bien aimé parce que dans un autre ouvrage, cette fois-ci c'est italien, et ça, c'est les deux règles de la perspective pratique de Barozzi Danti. Barozzi est un architecte né dans une petite ville à côté de Modène, et Danti était mathématicien de Bologne. Barozzi avait écrit cet ouvrage, les deux règles de la perspective pratique, et Danti a repris cet ouvrage et il l'a commenté. Les choses intéressantes, c'est qu'ils ne se sont jamais croisés, parce que quand Danti a commencé à commenter l'ouvrage, Barozzi était déjà mort. Donc c'était une collaboration dans le temps. Et dans la notation de Danti aux règles de Barozzi, on trouve toute une série de perspectographes nés à partir de portillons de Dürer. Et ce qui est intéressant dans cette description, c'est qu'on voit l'évolution de ces perspectographes. Donc une sorte de processus de instrumentalisation dans l'histoire. Je n'ai pas le terme. Et donc c'est intéressant parce que Danti montre quels sont les éléments que chaque instrument a par rapport au précédent et le problème qu'il va résoudre. Par exemple, dans cette perspectographe-là, les fils qui déterminent le plan du tableau virtuel sont remplacés par des règles. Quel est l'avantage? C'est que quand on tend le fil et on cherche le point à dessiner, on peut bouger le fil. Et donc, on peut commettre des erreurs. Tandis que si on a des barres fixes, alors là, ça va résoudre le problème. Et ça, c'est vrai, parce que quand on utilise le portillon de Dürer, c'est vrai, c'est très difficile parce que vraiment, mettre les points avec le fil, ça fait commettre des erreurs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on voit une autre évolution. Le portillon n'est pas coté, mais il est sur le même plan, donc le mouvement change aussi. Donc, vous voyez, on met le solide au-delà du plan du tableau virtuel, on tend le fil, on déplace les barres jusqu'à rencontrer le fil, on enlève le fil, on lève le portillon et on signe le point sur le tableau. C'est une construction point par point. Donc, il a des avantages, mais aussi des désavantages, parce que c'est vrai que c'est assez long comme procédure. Une autre, par exemple, évolution, c'est là que c'est le perspectographe de Orazio Trigini, où le portillon est sur le même plan. On ne l'ouvre pas, on ne le ferme pas, et fixe. C'est pour ça qu'on dit qu'on le fabrique double. On a là le portillon qui reste fixe. On a les deux parties. Et puis, on introduit là une échelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si j'ai là mon œil, donc je regarde, je fixe un point, je déplace le fil et la barre jusqu'à viser le point, je vais lire sur la barre les échelles, et je vais les remporter de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai plus de mouvement. J'ai enlevé le mouvement qui prend du temps quand même. Et j'ai introduit quand même un système de référence parce que j'ai la barre. Et j'ai seulement un fil à faire. Donc bon, ça évolue pour, bien sûr, dessiner avec une précision majeure. Mais c'est quand même une évolution de l'objet, donc de l'artefact. Et on arrivera avec Barozzi à un perspectographe où on aura avec vraiment un système de référence avec deux barres avec échelle. Et là, les points seront donnés par des coordonnées, vraiment. Donc on aura le détachement entre l'artiste qui voit et quelqu'un qui note le point sur une grille. Dans le même ouvrage, dans la règle, la deuxième règle de Barozzi, on a un autre perspectographe qui est intéressant parce que par rapport au précédent, il ne travaille pas dans l'espace. Les autres travaillent dans l'espace. C'est l'homme, c'est la taille de l'artiste comme de l'homme. Il ne travaille pas dans l'espace, mais sur le plan. Et il est intéressant parce que Barozzi énonce une règle et construit l'instrument qui la met en œuvre. Par rapport aux constructions qui étaient présentes dans les traités, par exemple, de Piero della Francesca, qui étaient les constructions légitimes, où il fallait tirer beaucoup de lignes, appelées lignes mortes, que c'était les lignes de construction, cet instrument permet de dessiner de perspective sans tirer cette ligne, parce qu'on utilise deux barres qui peuvent être déplacées et qui vont substituer les lignes de construction. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir comme point de départ, c'est le plan de l'objet que vous dessinez en perspective. À partir du plan, bon, aussi on va connaître la hauteur, on peut dessiner sur le plan vraiment la perspective de ces objets. On déplace. Il y a, bien sûr, pour utiliser ça, il faut avoir des mathématiques parce que les deux barres sont placées sur le point de distance et sur le point de fuite. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Il faut les bien placer. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est un instrument directement lié à une règle qui a été énoncée et vérifiée, démontrée indépendamment de l'instrument, et cet instrument l'automatise. Et puis, il travaille sur le plan. Donc, ce sont des petits exemples, mais le lien qu'il y a entre les mathématiques et les instruments, et comment il y a ces liens, n'est pas seulement moi, je fais des mathématiques, je trouve l'instrument, mais j'ai des instruments qui peuvent m'aider à avancer la pensée mathématique. Donc c'est un lien intéressant que, de notre point de vue, ce serait bien d'exploiter aussi dans l'enseignement, dans l'apprentissage des mathématiques. Dans l'histoire de l'enseignement en Italie, mais on le trouve aussi au niveau international, l'utilisation ou la suggestion d'utiliser des objets physiques est contenue dans l'idée de laboratoire de mathématiques. Alors, je disais dans l'histoire de la tradition italienne, parce qu'il y a eu certains mathématiciens qui ont favorisé et proposer des activités dans le temps pour l'enseignement des mathématiques avec des instruments. Par exemple, à Rome, il y a eu l'école de Emma Castelnuovo qui était fortement fondée sur cette idée-là. Et aussi, au niveau international, on verra. L'idée des laboratoires mathématiques a été reprise et, d'une certaine manière, formalisée par une commission qui était chargée de définir le curriculum des mathématiques en Italie. et qui a donc repris l'idée. Et le laboratoire de mathématiques est dans cette idée une méthodologie de travail, donc finaliser la construction de concepts mathématiques qui comprennent les élèves, les enseignants, les structures et les idées. Ce n'est pas une salle réservée de mathématiques comme la salle d'informatique. On ne le pense pas comme une salle à part, mais c'est quand même une façon de faire de mathématiques dans la classe. Donc ça, c'est l'idée forte. Et comment on va construire les concepts mathématiques? On utilise des objets ou des artefacts, comme je voulais l'appeler aussi comme ça, et on va interagir entre les gens, c'est-à-dire la construction de significations de concepts mathématiques naît d'une part par l'interaction et les liens entre l'utilisation d'artefacts et l'interaction entre les gens. Donc c'est quand même, il y a quand même l'idée d'une construction sociale du savoir. Ça c'est évident dans la description du laboratoire. Quels sont les artefacts qu'on trouve dans ce laboratoire? Ils sont décrits dans le document. Bon, on a les matériels pauvres, c'est-à-dire on pense par exemple aux symétries avec le pliage des feuilles de papier, donc c'est matériel qu'on peut trouver dans les classes. Et puis on a les machines mathématiques, donc avec le terme, avec l'expression machine mathématique, on désigne tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est-à-dire le mésolabon, les perspectographes, sont des machines mathématiques. Ce sont des instruments construits par le groupe de Modène concernant la géométrie. Et on le verra aussi ensuite. On a mis tout la partie TIS, donc logiciel, case, tableur, calculatrice. Donc on trouve aussi, on trouve donc dans le laboratoire les nouvelles et les anciennes technologies. Et puis on trouve aussi l'histoire, parce que c'est quand même au niveau culturel très importante. Et l'esprit des documents de la commission est effectivement celui de mettre en valeur les aspects culturels et les aspects instrumentaux de mathématiques. Donc on a forcément les deux. Puis d'autres indications méthodologiques qui sont par exemple la discussion mathématique, si on pense à l'interaction entre les gens. Donc ce n'est pas seulement un travail, c'est pas un travail individuel, c'est un travail en groupe et un travail collectif dans la classe. Je disais que dans l'histoire, on trouve dans d'autres moments des références au laboratoire de mathématiques. On le trouve dans la conférence d'Émile Borel au Musée pédagogique de Paris, où il dit, pour amener non seulement les élèves, mais aussi les professeurs, mais surtout l'esprit public à une notion plus exacte de ce que sont les mathématiques, et du rôle qu'elle joue réellement dans la vie moderne, il sera nécessaire de faire plus et de créer des vrais laboratoires de mathématiques. Alors, pour lui, le laboratoire de mathématiques rassemble plutôt un atelier de menuiserie, et donc où on va travailler effectivement avec des objets, on va les construire. Et j'ai mis là le site où vous pouvez trouver tout le texte de cette conférence. Mais aussi au niveau international, si on pense à la Commission internationale sur l'enseignement des mathématiques et dans sa revue, que c'est l'enseignement mathématique, on trouve la question sur les laboratoires mathématiques. On voit là que c'est quand même quelque chose qui est présent à un certain moment dans les réflexions. Et puis, le laboratoire mathématique a eu des moments de gloire, si je peux dire, un moment d'infamie, où à un certain moment, on dit, bon, on ne travaille plus avec ces types d'objets, on n'utilise pas. Ou on les utilise au niveau de l'école primaire, donc pas pour les autres mathématiques. Et il y a eu aussi, vous avez là, les modèles confectionnés par les élèves, mais le rôle de collection des modèles. Alors, je ne sais pas si s'est passé la même chose en France, mais à certains moments en Italie, les départements des mathématiques avaient une collection de surfaces, non, des modèles de surfaces qui allaient utiliser dans les cours. Par exemple, l'Université de Turin, le département de Turin a repris tous ces modèles, il les a exposés. Donc, certains ont été cassés, mais bon, il y a eu tout un moment où, au niveau universitaire, utiliser des modèles de surface, avec un fil ou plus solide. Alors, on a l'histoire d'une part, on a cette idée de laboratoire, et là, on va voir ce qu'on peut faire en classe. Hmm? Comment on peut implémenter cette idée de laboratoire de mathématiques, donc quel type d'activité de parcours. Et dans mon titre, vous voyez aussi la classe est hors de l'école, parce que je vais vous présenter un exemple où on a essayé de transposer l'idée de laboratoire, qui est quand même quelque chose qui concerne des process à long terme, dans une science, donc c'est un processus à bref terme. Alors, les exemples sont, concernent l'école primaire, en particulier l'arithmétique. Puis on va voir le collège, les transformations géométriques. Et puis dans le lycée, on va voir transformation géométrique section conique dans la forme d'une science de laboratoire. Donc on va voir comment on a construit une science qui prend en compte certains éléments pour nous fondamentaux. Avant de commencer, d'entrer dans les détails de cette activité, je vais un petit peu dire quels sont les points de départ construire les activités avec ces artefacts. Alors, d'abord, la seule manipulation n'est pas suffisante. Bon, peut-être que ce sont des choses assez simples, mais c'est quand même notre point de départ. C'est-à-dire, si je donne un artefact qui contienne un certain savoir mathématique, je le donne à manipuler. Je ne pense pas qu'avec la seule manipulation, on peut arriver à attraper le contenu mathématique qu'il y a. Donc, il faut quelque chose d'autre. Et dans ce quelque chose d'autre, le rôle de l'enseignante est fondamental. D'abord, parce qu'il choisit un artefact plutôt qu'un autre lié à un savoir mathématique. Et puis, parce qu'il il aide et favorise l'émergence de ce savoir mathématique après la manipulation ou avec la manipulation. L'autre élément fondamental, c'est quand un artefact est introduit en classe, on sollicite un certain travail avec une consigne et donc on vise un certain lien avec une connaissance mathématique. Quand on l'introduit dans la classe, par rapport au contenu mathématique, l'artefact n'est pas transparent pour les élèves. C'est-à-dire, moi, enseignant, je sais ce que je veux faire construire avec cet artefact, mais les élèves ne le savent pas. Donc, tout le travail est de rendre transparent cet artefact. Donc, de découvrir ce qu'il contient au niveau des mathématiques. Et le travail articule la structure de parcours du travail individuel, du travail collectif et du travail en petit groupe. On a tous les trois. Excusez-moi, je n'ai pas enlevé le mot. Alors, si on résume un petit peu ces éléments qui appartiennent au cadre théorique développé par Bartolini-Busti, qui est d'une postulation d'influence vygotskienne, on a là un élève qui a un devoir construit, une consigne donnée par l'enseignant. Donc, l'enseignant qui travaille là pour construire la consigne et qui fait référence à un certain savoir mathématique. Et puis, on donne un artefact aux élèves et on demande de travailler. Et là, l'élève qui travaille avec cet objet va produire ce qu'on appelait, qui est derrière le truc, des textes situés, contextualisés à l'artefact, c'est-à-dire ce qu'il produit. Ce sont des scènes, des gestes, on peut dire de narration, de recherche, si on utilise un terme proche, qui sont liés à ce qu'il a fait avec l'artefact. Mais ça, ce n'est pas suffisant, comme je disais, c'est la manipulation. Donc, l'enseignant entre avec un autre rôle ici, qui il doit permettre de passer de ces textes contextualisés situés aux textes mathématiques. Donc, faire une transition entre les deux textes qui sont après, bon, bien sûr, liés au savoir mathématique. Donc, comme je disais, le rôle de l'enseignant, on le voit au début, quand je l'ai choisi, et pendant les activités, parce qu'il vise des écritures, des textes mathématiques, des termes mathématiques liés aux mathématiques. Alors, en classe, à l'école primaire, j'ai travaillé avec ce qu'on appelait une pascaline. Et je vais la présenter. On a fait deux parcours, mais j'ai détaillé seulement un parcours. Vous voyez, c'est fin. Le premier, c'est fin CE2, début CM1, et l'autre, c'est début CM2. La pascaline. Alors, vous savez, connaissez bien la pascaline? Oh, c'est la fameuse pascaline de Pascal. Bon, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on a utilisé. Bon, c'est pas... On a utilisé ce qui était construit par une entreprise italienne. C'était... Bon, il y avait eu des contacts avec l'équipe de recherche de Turin. Et on a utilisé cet artefact-là. On l'appelait pascaline parce que l'histoire, c'était pascaline dès le début, donc on l'a pris comme ça. Mais si on voit un petit peu la structure, elle peut ressembler plutôt à une machine toujours arithmétique de Jicquard, parce que Pascal n'a pas des roues dentelées comme ça. C'est fait d'une autre façon. Mais bon, on a commencé à l'appeler comme ça, c'était tombé très bien, parce qu'on avait toute une histoire à raconter avec Pascal, donc on a bien gardé ces noms. Pourquoi la pascaline dans les expérimentations que nous avons faites? D'abord, parce que ça permettait de redécouvrir et utiliser des instruments de l'histoire, instruments très liés à l'histoire, pour construire des concepts mathématiques. Donc on est bien dans l'esprit que je disais. Les enseignants qui ont travaillé avec la pascaline faisaient partie du groupe de recherche des modèles, et donc ils avaient déjà mené des recherches sur la BAC. Donc pour elles, c'était une recherche en continuité avec les recherches sur la BAC. D'ailleurs, dans leur classe, ils avaient travaillé sur la BAC, donc ça pouvait être des points d'appui. Et puis, parce que à Modène, par exemple, des instruments pour la géométrie, et c'était bien une machine pour le calcul. On était penché sur le calcul, donc ça tombait bien de travailler aussi sur les opérations d'une part et sur la notation positionnelle de l'autre. Alors, la pascaline, si on la voit, on voit des roues dentelées. Et le mouvement de toutes ces roues peut être déterminé par le mouvement d'un rue seulement. C'est-à-dire, si je tourne, et je continue. Donc, bien sûr, je peux déplacer les autres, mais tout le mouvement peut être déterminé si je bouge seulement ça. L'autre élément très intéressant, c'est que quand je fais comme ça, j'ajoute 1. Donc, c'est lié à... je peux engendrer tous les nombres en ajoutant 1. Donc, j'ai quand même une opération par récurrence qui est liée, on voit la sématique de piano où on a l'opération successive. Donc c'est un contenu mathématique intéressant. Et puis, quand on va l'utiliser, on va mettre, mobiliser comme connaissance la notation positionnelle. Parce que là, on a la rue des unités, des dizaines et des centaines. Donc, d'abord, pour l'utiliser, il faut découvrir comment on va écrire les nombres. Donc, c'est pas banal. Donc, c'est quand même une écriture des nombres. Elle a été aussi exploitée au niveau des écritures de nombres, avec les tout petits qui commençaient à écrire, à découvrir la notation positionnelle. On peut faire des opérations, bien sûr, parce qu'il était né comme ça. Addition et soustraction. Alors, l'addition, je tourne dans un sens, et la soustraction, je tourne dans l'autre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'une opération est l'opposé de l'autre. Et ça, cette opposition, c'est pas le bon terme, mais vous avez bien compris, est liée au mouvement que je fais, horaire ou antihoraire. On peut quand même utiliser pour des multiplications et des divisions, mais on ne l'a pas fait parce que ce n'était pas le but. Mais ce sont des additions répétées ou des soustractions répétées. Ensuite, comment on peut faire ces opérations? Alors, je disais, on peut additionner par récurrence. J'ajoute 1 unité. Ou bien, la notation positionnelle, et donc je peux décomposer les nombres. Par exemple, si je dois faire 28 plus 14, j'écris 28, et puis je décompose le 14, une dizaine, 4 unités, et j'ajoute dans les deux roues, au lieu de faire 14 fois les unités. Donc on a les deux. Et la différence entre les deux dépend de la taille des nombres. C'est-à-dire, si j'ai des nombres petits, je peux le faire pour récurrence, et j'ajoute 1. D'ailleurs, les tout petits font comme ça. Si je dois ajouter 59 plus 64, alors c'est très coûteux. Donc je vais décomposer. Cette machine a un automatisme très important, que c'est la retenue. Vous avez vu que quand j'arrive à 9, j'ai la retenue automatique. Et quand j'ai la retenue automatique, vous attendez, j'ai quand même un tic. Donc, ça, c'est tout a été relevé par tous les élèves. Quand j'ai 10 unités ou 10 dizaines et je passe, j'ai un son qui est attaché à ce passage. Alors, par rapport à la BAC, c'était intéressant. Parce que si vous pensez à la BAC, quand j'ai mis les 9 boules, je dois mettre la dizaine, je dois enlever toutes les boules des unités, le mettre la boule dans le bas de barre de la dizaine, et donc c'est pas automatique du tout. Mais là, c'est l'automatisme. Et l'autre élément intéressant par rapport à la BAC, c'est que dans la BAC, j'ai des boules, et là, dans les dons, j'ai déjà les chiffres, avec le zéro. Donc, c'est quand même une différence importante parce que quand j'ai fait mon opération, je vais lire là le résultat. Donc, je vais lire le nombre. Je ne dois pas regarder les boules, compter un petit peu les boules et dire, bon, c'est... Donc, c'était quand même des caractéristiques très importantes qui rendent cet artefact différent de la BAC. Donc, c'est intéressant de le proposer aussi à des élèves qui avaient travaillé sur la BAC. Et puis, puisque on a l'addition unaire, si on ajoute 1 par récurrence, c'était pour nous une occasion, donc l'objectif, c'était de travailler sur les opérations, de voir qu'on a des procédures différentes pour effectuer le même type d'opération et de formaliser cette différence. Si on pense... aussi à cette analyse, à cette pascaline, je l'ai fait un petit peu a priori, on peut voir, on peut anticiper que l'opération binaire pourrait poser des problèmes, c'est-à-dire si je dois faire 4 plus 3, qu'est-ce que font les élèves? Parfois, Il met 4 ici, dans la première. 3 dans la deuxième. Et j'attends le résultat. Mais là, ça ne marche pas. Et ça, c'est intéressant parce que le feedback qui donne la machine, c'est de ne donner pas de feedback. C'est-à-dire, si je n'écris pas les nombres et ma procédure n'est pas bon, rien ne se passe. Et ça, c'est un obstacle, pas seulement avec les élèves, parce que j'ai testé la Pascaline avec mes étudiants, ce sont des professeurs d'école en formation. Et là, vraiment, on voit comment l'opération binaire empêche de voir quelle est la structure et le fonctionnement de la machine. Parce que là, ils écrivaient, ils attendaient, ils ne comprenaient pas pourquoi rien bougeait. Alors, pour faire l'addition, il faut écrire d'abord le premier nombre et puis ajouter le deuxième. Donc, c'est, on disait, si on va travailler sur les additions, ça pourrait être intéressant de voir ce genre d'obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cet artefact qui est, vous voyez, assez riche? Donc, le parcours, j'ai un petit peu synthétisé. Ça concerne la fin de CE2 et le début de CM1. Et on s'est rencontré tous les 15 jours. Donc, c'est un processus à long terme. Et on a d'abord proposé une séance de découverte de la Pascaline, un travail en binôme. Faire des additions, de comparer les procédures pour les faire, de rédiger des instructions d'utilisation, de comparer les textes, les tests produits par les élèves, la lettre de présentation de Pascal, et ça c'est intéressant parce que c'est un autre artefact qui entre dans la classe. Donc, c'est un texte écrit par le concepteur de la machine. Et les instructions du constructeur de cette là. Et puis, on a demandé des écritures de ces deux manières d'additionner avec la Pascaline. Quand je disais la lettre de Pascal est intéressante, parce que ça donne quand même le côté historique, donc je disais, les élèves sont confrontés avec la lecture de la lettre de Pascal, et ce qui est intéressant dans la lettre de Pascal, c'est qu'il ne donne pas d'instructions pour utiliser sa machine. Bon, il dit c'est une très belle machine, on peut faire toutes les opérations. D'ailleurs, il avait construit, parce que son père était comptable, et il avait la bague à jetons, et donc les jetons tombaient, donc il fallait automatiser un petit peu le calcul. Donc, c'est très bien, on a utilisé les connaissances mathématiques, mécaniques, tout ça. Il faut faire attention que peut-être il y aura des copies, hein, mais ils ne disent pas comment l'utiliser, parce qu'ils disent, bon, on le montrera, on ne dit pas là. Et donc, c'était intéressant de voir qu'est-ce que les élèves avaient produit. La lettre de Pascal, d'ailleurs, ils avaient dit qu'ils voulaient seulement vendre sa machine parce qu'il y avait beaucoup de mots sur la beauté et l'efficacité de sa machine. Et les instructions du constructeur que les élèves ont trouvées pas trop précises par rapport au travail qu'ils avaient fait. Alors, je vais vous montrer des exemples de la découverte de la Pascaline, un exemple de rédaction d'instruction d'utilisation et l'écriture. Alors, découverte de la Pascaline, on a donné au couple d'élèves la Pascaline et on a dit, bon, c'est une machine qui a été construite par Pascal pour faire des additions, donc c'est limité comme ça. Et explorer là et voyez comment elle fonctionne. Donc, on a une exploration de la machine, des hypothèses sur le fonctionnement et la production d'exemples. La séance durait 2 heures et au bout de 2 heures, seulement un groupe d'élèves assez faible n'avait pas mis en évidence le fonctionnement de la machine parce que c'est une machine très belle avec de la couleur, et on peut tourner les roues, on peut jouer avec. Donc c'est, on voyait au début, c'était, il y avait des bruits dans toute la classe parce qu'on a commencé à bouger les roues, on voit bien que ce qui bouge. Et puis il y a des flèches là qui sont évidentes, mais que vraiment n'indiquent pas de nombre. Donc on a tous ces éléments qu'il faut bien détacher, voir quel est le rôle. Et puis là, il y a une petite virgule là, ben alors on peut faire aussi le décimaux. Donc c'est quand même c'est une phase assez riche. Et les élèves ont ensuite produit un texte écrit où vous allez décrire la machine, dire comment elle fonctionne, ou la dessiner. Et on a fait une discussion collective de mathématiques pour voir ce qu'était le travail de l'élève. Et j'ai mis là un exemple de ce qu'on appelait un petit peu le test situé, contextualiser l'artefact. Bon, on passait une rotation. D'abord, c'est celle-ci, donc on a des gestes déictiques, j'indique les roues, je tourne celle-ci, je commence à tourner l'autre côté. Vous voyez que j'ai des gestes, et puis j'ai fait référence, bien sûr, ils font référence à des roues, mais ce n'est pas leur une des unités, des dizaines, je ne dis pas sensoriel, intuitif. Donc on voit, c'est un texte qui est lié à la manipulation. Et ce qu'on a fait avec l'enseignant, c'est de préciser tous ces termes pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec la machine sans faire référence, bien sûr, à la disposition, aux couleurs des roues qu'il y avait. Donc là, on est dans le test situé. Si je disais par rapport aux obstacles, voici, ce sont deux extraits de cette discussion. Alors, un élève dit, nous avons eu beaucoup de difficultés parce qu'au début, nous ne comprenions pas comment réussir à faire ce travail. Donc, ce que je disais, c'est quand même, c'est simple, mais c'est complexe. Donc, la consigne, on le savait parce que, pour ce que j'avais fait avec mes étudiants, c'était pas une consigne facile de voir comment on allait travailler. Et puis, au niveau de l'opération binaire, un autre élève dit, nous avons eu un petit peu de difficultés. Nous n'arrivions pas à comprendre comment faire les additions, parce que même si nous les savions, donc je sais faire des additions par calcul mental, donc je sais contrôler ce que je veux faire, nous n'arrivions pas à le faire avec la machine. Donc ce que ces élèves faisaient, bon, ils écrivaient sur le papier 12 ou plus, ils le faisaient, c'est du calcul mental, et ils essayaient de faire ressortir le résultat avec la machine. On ne disait pas, donc c'est pas ça. Mais ça, c'est un exemple de l'obstacle de l'opération binaire, c'est-à-dire que je dois travailler autrement par rapport à une connaissance que j'ai bien et que je veux mettre en place. Au niveau de rédaction d'instructions d'utilisation, on a eu des tests sans dessin, ou par étape, ce qu'il fallait faire, et il y a eu un protocole d'un élève qui disait si vous entendez un bruit, ce n'est pas de problème, c'est la retenue qui va se mettre en place. Et, par exemple, ça c'est un autre exemple, c'est un protocole un petit peu mixte, où on voit, ce n'est pas complet, et dans la discussion, ils ont bien mis en évidence que ce n'était pas complet, il y avait beaucoup d'implicites. Donc c'est un premier dessin, c'est la première phase, dans la successive, on montre comment on bouge les roues. Donc, vous voyez qu'on a une petite main sur un doigt et le mouvement des roues est exprimé par des flèches, qui sont les flèches qui, après, quand on étudiera la structure, vont substituer les roues, on parle de dons, on perd les dons, et c'est le mouvement qui dit horaire ou anti-horaire. Alors, ça, c'est un exemple, mais pour vous dire comment on travaille, donc on a des textes, on a des discussions, ils vont produire des textes écrits, et sur ce texte écrit, on va fonder le travail successif. Et on va voir quels sont le passage entre l'exploration qu'ils ont fait et les traces. Donc, la roue tourne d'une certaine manière. Qu'est-ce que je vais voir dans le. Est-ce que je peux voir quelque chose dans mon protocole qui rende compte de ce mouvement? Donc, quand je disais je tourne, je mets une flèche. Et puis là, on a le geste qui va bouger la roue, qui est, c'est pas écrit, mais est exprimé par le petit dessin. Et puis là aussi, ils ont bien sûr, bien tout de suite trouvé quelle était la limite. La machine, on ne peut pas aller au-delà de 999. Parce que si on ajoute 1, tout devient 0, parce qu'il faudrait la 4e rue. Et d'ailleurs, ils avaient proposé de... Bon, il faut ajouter la 4e, donc quand même de élargir, agrandir la machine. Le dernier consigne qu'on a donné, c'est un petit peu aussi l'évaluation pour nous. Les deux procédures pour faire les additions. Donc, j'écris le premier nombre, 28, j'ajoute le deuxième, en tournant 4 fois dans le sens horaire la rue des unités, la rue des dizaines, une seule fois. Alors, ça, c'est un extrait de protocole. Si je le compare au premier extrait que j'ai donné, vous voyez bien le passage, l'évolution qu'il y a eu. Et l'autre élève dit, j'écris 28, je tourne 14 fois la rue la plus basse dans le sens horaire, celle des unités. Donc c'est vrai que c'est la plus basse, mais c'est quand même des unités. Et c'est les résultats. Et on demandait d'écrire les expressions mathématiques qui représentent les deux diverses procédures. Alors, on a des protocoles divers. Dans le premier, on a une influence de la pascaline parce que on a des roues. Mais si je dois ajouter 14 fois 1, je travaille sur la rue des unités. Et donc, j'ai seulement une rue, là. J'ai des flèches qui, je dis, je dois tourner. J'écris 28, je tourne 14 fois et j'ai 42. Donc, c'est un petit peu le chemin d'une opération lunaire. Et là, c'est l'écriture qui n'est pas économique, mais c'est pour dire, bon, j'ajoute tous les fois 1, donc la récurrence. Dans l'autre cas, je vais décomposer, donc j'utilise tous les roues et je vais les dessiner. J'écris 28, j'ajoute 14 aux unités, 1 aux dizaines, je tourne, et puis, vous voyez là, je vais lire 42. Donc c'était un pas de formalisation des différentes écritures. Là, on n'a pas de référence à la pascaline et on a les flèches quand même qu'on dise bon, je vais décomposer. C'est un essai, bon, il s'est un petit peu brouillé, mais l'idée c'était de dire dizaine contre dizaine et unité avec unité. Et là, j'ajoute 1, je décompose le 14, donc de la récurrence. Donc, on pense que ce sont des élèves de CM1. Donc, si on considérait le début du parcours, effectivement, où c'était l'opération binaire, on est arrivé avec ce type de travail, une écriture qui n'est pas simple, n'est pas évident, même avec les adultes, mes étudiants. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer comment, dans un parcours à long terme, on travaille avec un instrument et avec le savoir qui est contenu dans cet instrument. On va le faire sortir. Au niveau du collège, on a travaillé avec la géométrie, en particulier avec les transformations géométriques. L'isométrie et l'homothétie. Pour les isométries, on a considéré l'axiale, la centrale et la translation. Pas de rotation, parce que les machines pour la rotation est difficile. Donc c'est pas évident. Donc on a décidé de commencer par celle-là. Qu'est-ce qu'on a fait en classe? Bon, la structure, on verra, c'est un petit peu différent. On a prévu des séances de travail avec la machine et des séances sans la machine, donc gérées totalement par l'enseignant. Avec la machine, c'était un travail en groupe de 4 élèves avec une fiche. Et puis, il y a eu un travail collectif au tableau. Ces parcours étaient expérimentés l'année dernière. Et est plein de négociations avec l'enseignant parce que l'enseignant ne connaissait pas vraiment les machines, n'avait jamais travaillé avec ces machines. Elle était venue une fois au laboratoire chez nous. Ils avaient bien sûr les objectifs d'aborder les transformations avec ses élèves, mais aussi l'objectif de travailler les mathématiques d'une façon différente. Donc, c'était pas le même. Et bien sûr, nous avions l'objectif d'expérimenter cet parcours, mais aussi de former l'enseignant à travailler avec les machines. Donc, ce sont croisées différentes choses. Et puis, il y a le temps au collège, n'est pas le temps et la gestion des temps de l'école primaire. Donc, on a aussi eu des contraintes. Alors, les fiches qu'on a données aux élèves. Alors, je vous montre. Donc, c'est une machine mathématique. C'était comme ça. C'est un construit en bois. Et on les donne avec une fiche. Et cette fiche présente d'abord des questions sur la machine même. Donc, comment, de description de la machine, combien de barres il y a, quelles figures, si je déplace, quelles figures sont formées par la machine. Et puis, vous avez encore les étiquettes. On a demandé de dessiner la machine sur le papier. Donc, on force l'articulation machine-papier, crayon, et de donner des noms vertex. Parce que, ensuite, c'est intéressant, les questions suivantes vont demander les propriétés de ces points. Donc, il fallait les nommer. Et vous savez que ce n'est pas évident de donner des noms aux points. Donc, c'est une première partie. La deuxième, c'est le repérage de vertex libres ou assujettis à des liens de ces machines. Par exemple, ce point-là est un point fixe, donc je vais le noter. Si je prends ce point-là, je peux le déplacer comme je veux dans le plan, donc c'est quand même un point libre. Si je prends ce point-là, je ne peux pas le déplacer comme je veux. Il dessine quand même, il suit une trajectoire. Donc on a des points qui ont des caractéristiques différentes. Et par rapport au point qui nous intéresse, on va prendre les deux points libres. On a deux points libres qui sont appelés traceurs et pointeurs. Donc, ce sont les points qui permettent de dessiner, de travailler. Donc, c'était là. Et là, c'est intéressant de voir comment ils n'avaient pas encore traité vraiment le cercle, mais que là, ils voyaient bien le type de courbe que ce point-là traçait. Et puis, on va demander de dessiner des figures symétriques avec la machine. On ne le voit pas très bien, mais on avait mis un tableau, c'était pour nous pour mettre en évidence les invariants de la transformation. Donc, si je dessine un segment d'une certaine longueur, la machine va dessiner un segment de quelle longueur. Si j'ai, par exemple, la symétrie axiale, on a demandé de dessiner un segment perpendiculaire ou parallèle à l'axe de symétrie, c'était une fente. Et puis, des triangles, par exemple, en carré, comme ça. Et ce qu'on allait demander, donc, il s'est dessiné sur le plan la figure. Et puis, on allait mettre la mine dans l'autre point libre. On suivait le contour de l'objet avec un point et la mine dessinait l'autre. Bien sûr, ces instruments ont un degré d'imprécision important. Ça, c'est sûr. Mais, vous voyez, c'est quand même une activité que les élèves ont fait. C'était un groupe, donc il allait se coordonner qui allait suivre les contours et qui allait garder la mine et dessiner. Et puis, ils allaient mesurer ce qu'ils avaient obtenu. Et à un certain moment, la procédure plus économique, c'était de tracer des points, par exemple. Vu qu'un segment était un segment, il traçait les deux points, les deux extrêmes du segment, pour voir les autres, aussi pour les triangles. Quatrième question, c'est la relation entre un point et son symétrique. Donc, on dessine un point. Bon, si son symétrique, enfin, si je pense à la symétrie axiale, donc c'était la fiche de symétrie axiale, que ce n'est pas celle de la machine-là. Si je dessine un point et son correspondant, Et puis j'enlève la machine et je dois trouver la relation entre les deux. Donc ça, c'était pour donner une définition un peu opérationnelle de cette transformation. Comme comment j'ai fait pour dessiner. Parce que puis on allait travailler sur ce type de définition. Donc l'affiche montre une approche à l'artefact différente par rapport à l'école primaire. Non? L'école primaire, on donnait, bon, on disait, explorez, voyez comment il fait, vous écrivez un texte et puis on va discuter. Tandis que là, on a donné une fiche qui a des parties très, très bien précises. Donc c'est une exploration différente. On a articulé le travail avec la machine et le papier crayon parce que c'était important d'avoir des éléments sur lesquels travailler dans la suite donc, du texte. Et de ne pas laisser les élèves seulement dans l'action. Je manipule et c'est tout. Donc je vais avoir trace de ce que je fais. Et puis de donner une définition, de dire comment je vais faire pour tracer le point correspondant. Dans le travail au tableau, on a retravaillé les réponses données sous la fiche. On a vérifié le tableau des invariants, même si on ne les a pas travaillés dans la suite, mais dans les cahiers, les élèves les avaient et c'était important pour l'enseignant de les avoir, de les récupérer ensuite. Et donc vous voyez là, c'est un petit peu le travail au tableau, on essaie de reconstruire et là on a utilisé d'autres artefacts, c'est les équerres, pas le compas parce que c'est les équerres, ils avaient eu du mal, vraiment du mal à utiliser avec la notion de parallélisme, perpendicularité, mais c'est quand même un autre type de travail. Ce qu'on n'a pas fait, parce que c'était un choix quand même, c'est de justifier le fonctionnement de la machine. On a travaillé sur la définition. Là aussi, une négociation, parce que l'enseignant voulait une définition très formelle au début. Donc, on a quand même travailler sur le texte produit des élèves qui était incomplet, on allait le compléter, on a laissé d'abord démolir l'artefact et puis on a la transition. Et on n'a pas demandé la justification parce que pour certaines machines, on peut le faire, mais pour d'autres, comme pour celle-ci, qui correspond à une nomothécie, pour justifier le fonctionnement de la machine, il faut mettre en jeu des triangles semblables. Donc, ce n'était pas quelque chose que les élèves avaient. Donc, on a décidé de ne pas aller au niveau de la justification du fonctionnement. L'enseignant a, on peut dire, les objectifs de l'enseignant étaient atteints, c'est-à-dire, il a eu, dans la suite du travail en classe, beaucoup de références au travail avec les machines. Donc, c'était quand même un travail assez dur, mais qu'il a dû donner des éléments pour la suite. Et cette année, on va proposer ce parcours en l'intégrant mieux dans son parcours mathématique. Et notre objectif était aussi atteint parce qu'elle va prendre la gestion des sciences. Donc, nous, on est là comme observateur, mais on ne gère pas toute la science, donc celle qui vont. C'était un transfert important pour nous, et puis il y a d'autres enseignants de l'école qui vont commencer à travailler avec. Au niveau d'autres exemples, c'est le laboratoire, la transposition du laboratoire dans notre propre laboratoire à l'université. Donc, je parle de sciences de laboratoire, de mathématiques. Pour les machines mathématiques, donc, ce qu'on fait, ce sont les sections coniques et traceurs des coniques. Bon, je sais qu'en France, les sections coniques ne sont plus programmées, mais chez nous, c'est une partie importante. Les transformations, et on est toujours dans le chantier pour le parcours sous la perspective, parce que par rapport aux autres, les perspectographes, demande un travail et une maîtrise pour l'utiliser, et d'ailleurs l'histoire le dit. Donc il y a un aspect épistémologique qu'il faut considérer dans ce type de parcours. Donc on a fait une première expérimentation, mais on est en train de l'élaborer. une séance de laboratoire a trois phases. Une première phase d'introduction au parcours, section conique ou transformation. Une deuxième phase de travail en groupe et une troisième phase de présentation du travail par les groupes et conclusion. Alors, ces trois phases ont été l'objet d'une, on peut dire, négociation, mais aussi on a cherché un équilibre entre le travail qu'on pouvait faire. La première phase est faite par nous et présente un petit peu l'aspect historique du thème. On utilise des grands modèles, ce sont modèles dans l'espace. Le travail en groupe est fait sur les instruments parce qu'on voulait quand même que les élèves, les classes qui viennent une fois chez nous, peuvent travailler avec ces instruments, avec une fiche. Et chaque groupe a un instrument différent. Travaille même sur les sections coniques. Il y a certains qui travaillent sur l'ellipse, parabole ou hyperbole. Et le fait de travailler sur des instruments différents a poussé à une phase 3 où il faut présenter aux autres la machine qu'on a fait, sur laquelle on a travaillé. Et c'est donc de cette manière le travail de tous les groupes fait partie, commence à faire partie du répertoire de la classe. C'est aussi pour l'enseignant qui a bon qui suivi les groupes, mais comme ça il peut avoir tous les instruments disponibles. Et puis on va valider, institutionnaliser, on peut dire ce qu'ils ont fait, les connaissances mathématiques liées. Tout ça avec la question du temps, parce que l'une section a la durée de 2 heures, pas plus. Donc c'est quand même un équilibre difficile. Alors, je donne quelques éléments du parcours de section conique. Donc on part de la théorie tridimensionnelle à la théorie bidimensionnelle. La tridimensionnelle, c'est ça, la théorie des sections coniques à partir de Menaechme et Euclide, où les coniques étaient des courbes dans l'espace, des courbes solides, donc étudiées dans l'espace comme ils étaient obtenus comme sections d'un cône. Et puis on passe à la théorie bidimensionnelle, donc aux instruments qui travaillent sur le plan. Donc on commence par le plus simple, c'est un cône de Menaechme. Menaechme a des cônes droits. Et dans ces sciences du laboratoire, à la différence de ce que j'ai montré où on a seulement les instruments physiques, on utilise aussi des animations. Donc on essaye d'articuler, si c'est un mot un petit peu grand, les anciennes et les nouvelles, mais de la part de l'enseignant. C'est-à-dire, c'est nous qui, de l'enseignante ou de qui propose la science, qui gère les animations. Ce n'est pas une exploration par les élèves. Donc, par exemple, là, les secondes peuvent être obtenues par rotation d'un triangle rectangle, et selon le triangle rectangle, on a 3 cônes différentes. Et puis, le cône est coupé par un plan. Et dans le modèle, le plan est un plan à plexiglas et tout est fixe, rien ne peut bouger parce que le plexiglas a des trous où passe le fil. Donc là, on le décrit, mais on ne peut rien bouger par rapport à ce que je vous ai montré. Et puis, dans ce cas, qui c'est la courbe la plus simple, c'est l'orthotome de Menaechme, qui c'est une parabole, on va aussi dire comment elle était étudiée et que pour ces courbes, on allait trouver des relations entre des segments. Donc, ça s'appelle syntome, c'est la propriété caractéristique des courbes qui est une proportion. Et puis, pour aller au-delà de limites physiques de l'instrument, de ce modèle, on utilise, comme je disais, des animations faites par des logiciels différents. Par exemple, une limite est le fait que je ne peux pas déplacer le plan et voir que je peux obtenir des paraboles. Et là, je montre comment, effectivement, à partir de ce cône, j'obtiens une parabole, mais je peux obtenir aussi une autre courbe en déplaçant le plan. Donc, je peux couper mon cône et donc je n'obtenais pas seulement une parabole. Et ça, on l'a dit, c'est-à-dire pendant le discours, mais ça, c'est intéressant parce qu'on le voit, on voit ce mouvement qui n'est pas possible avec les objets physiques. Puis on passe à notre cône qui est le cône de Polonius, qui n'est plus un cône droit. Et là, on voit là, les modèles montrent la différence entre les deux. Et la façon selon laquelle ces cônes sont obtenus, c'est une rotation d'une droite qui passe par un cercle, un point extérieur au plan du cercle, est différente par rapport à l'autre. Et cette différence, on la montre avec le modèle physique. Et puis, puisqu'on dit que Ménèque a besoin de trois cônes pour les coniques et Apollonius a besoin seulement d'un cône pour les coniques, on le montre, on le fait voir, avec une autre... j'espère qu'il ne va pas... Avec une autre animation. Donc on voit, bon là on a... Bon, je vais le montrer, mais c'est très simple, c'est pas... bon, vous voyez, ce sont les yeux, là une ellipse, et puis si je déplace le pont en respectant la condition de coupage, j'obtiens par exemple là une belle hyperbole parce que j'ai l'autre branche ici, et si je le mets d'une manière on peut dire bien, je peux aussi parler de parabole. Donc on voit là comment le recours au logiciel nous permet, c'est une animation très simple, d'aller au-delà de ses limites, non, de voir qu'effectivement on peut les déplacer, on peut obtenir les coniques. Ils vont retrouver, s'ils ont déjà fait aborder les coniques, certains éléments. Puis je disais, on va travailler sur le plan. Et notre petite note historique, c'est à partir de la géométrie de Descartes que les instruments ont on peut dire une place dans la géométrie. Donc c'est Descartes qui dit que les courbes peuvent être obtenues avec aussi des instruments mécaniques. Donc c'est avec lui. Et à partir de là, on a eu beaucoup de traités, plein de descriptions d'instruments pour traiter. On donne ces instruments, par exemple, pour les coniques, ce que je vais vous montrer, c'est la fiche. Et comme pour le collège aussi, on a une partie d'analyse de la machine et des composantes, l'exploration de la machine et les invariants de ce mouvement, les courbes qui sont tracées par les points. Là aussi, vous voyez, j'ai deux points fixes dans le plan. J'ai ces deux points-là qui vont décrire des cercles, et puis j'ai ce point-là qui décrit la courbe dont je dois expliciter la propriété. Cette fiche guide beaucoup le travail des élèves parce que pour la question du temps, on veut quand même qu'ils arrivent à dire quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'ils savaient et arriver quand même à dire quelle est la courbe tracée, la propriété. Et parfois, bon, ils vont dessiner et ils reconnaissent la courbe. Alors ils disent, bon, c'est par exemple ici une ellipse. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant parce qu'il doit là justifier pourquoi la machine trace cette courbe-là. Donc quelle est la propriété utilisée pour la construction de la machine. Donc ce qu'on n'a pas fait au collège au niveau de la justification, là on le fait, on le pousse pour toutes les machines, Marie. Et on peut aussi aller jusqu'aux recherches des équations de la courbe. La dernière partie dépend du niveau de la classe, on demande partout parce que quand on commence à mettre des systèmes de référence de coordonnées, faire des calculs, il y a des classes qui vont là ont quelques problèmes. Alors, on arrive à une description à la propriété métrique de la courbe. Bon, et dans la troisième partie où on présente les instruments, ce sont les élèves qui le présentent. C'est pas nous, on ajoute des choses. Et puis, puisque, par exemple, si j'ai cette machine-là, vous voyez que j'ai une contrainte. Non, je peux aller juste de là à là. Et donc, je trace seulement une partie de la courbe. Et je pourrais tracer une autre partie en déplaçant, en déchargeant et tout. Et on ne nous demande pas, bien sûr, de les faire, mais la partie qu'il trace, c'est suffisant pour ce qu'on peut faire. Et les animations qu'on peut réaliser avec Cabri permettent effectivement de montrer que sans ces limites physiques, on pourrait bien sûr dessiner toute la courbe. Là aussi, c'est une exploration. On a aussi, par exemple, des questions qui concernent si je mets les deux points A et B sont proches, qu'est-ce que ça devient la courbe? Si s'éloigne, comment? Et bon, là, on le dit. Ils font des expériences de ce genre à partir. Et puis, on pourrait, bien sûr, le montrer, le faire voir. Donc, c'est pas montrer avec les animations. Donc, on a ce type de d'articulation, je disais toujours, de la part de l'enseignant. On ne peut pas donner des animations aux élèves. Bon, ça, ce sont des images historiques. C'est la traceur parallélogramme croisé de Van Schooten. Puis, bon, j'ai mis là une petite animation de la machine pour le motessi, que c'est le pantographe de Scheiner. C'est le bien connu pantographe de Scheiner. C'est bien connu parce qu'on le trouve aussi dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et c'est aussi un instrument intéressant parce que dans la conception de Scheiner, était né d'abord comme un instrument pour la perspective et puis a été mis sur le plan. Donc ça c'est le plan ce que nous avons montré, mais c'est aussi une partie d'un perspectographe. Et l'avantage de ce perspectographe, c'est que je peux dessiner les objets lointains, parce que en même temps que je dessine, j'agrandis. Je dessine et j'agrandis. J'ai l'agrandissement en même temps. Et puis on les trouve dans des machines actuelles de précision où on fait des éléments comme ça. Donc, c'est un objet de l'histoire qui est quand même présent dans certaines machines. Bon, quelques conclusions. Bon, vous avez lu un petit peu les instruments dans l'histoire, dans l'enseignement. Et ce qui est une question intéressante, c'est de voir l'articulation entre artefacts, donc anciennes et nouvelles, qui reste quand même une question ouverte au niveau de la recherche, même si on a des expérimentations. Et puis, au niveau de ressources, sur ce qu'on a là, parce qu'on est bien dans une formation de ressources, on a le site de laboratoire où les élèves ou les enseignants peuvent prendre des animations, le texte historique. Et d'ailleurs, il y a des enseignants qui nous disent qu'ils préparent les classes avec le matériel du site. Et on est en train de mettre sur le site les fiches que je vous ai montrées avec des commentaires et des animations, donc pour les enseignants qui veulent venir chez nous. Et on est en un projet de recueillir les expérimentations faites avec la Pascaline, donc les parcours analyser, le mettre à disposition des autres. Et là, quelques références. Bon, ce sont des sites, je n'ai pas mis des articles. Bon, la commission, le document de la commission italienne, la conférence de Borel. Si vous voulez voir une séance de laboratoire, il y a là une vidéo, parce qu'ils sont venus chez nous à nous reprendre. Donc, c'est. Il y a le site de laboratoire, une petite description du laboratoire dans le site Culture Math. Et si vous voulez quelques idées sur anciennes et nouvelles technologies, il y a un petit document pour discussion d'un groupe de travail chez moi. Et donc, ce sont des idées comme ça. Et je vous remercie.